Essa é a conjuntura.
Isso é vraiment très au sud, puisque vous direz Malte, justement. Malte, donc c'est encore plus au sud.
Pardon?
Malte, je dis.
Ah, Malte, oui, oui. Malte. La Pologne et la Malte. Ah, Malte, oui, oui, ça c'est vrai, parce qu'ils ont accepté le mariage homosexuel, par exemple.
Je voulais vous dire que c'est terrible en Europe. Vous avez vu, vous êtes bien mieux au courant que moi, certainement là-dessus. Vous voyez, l'anticatholicisme devient effarant en France. La ministre de l'Éducation nationale et la ministre des droits de la femme s'entendent à merveille pour supprimer la liberté, premièrement, supprimer l'objection de conscience pour les femmes, supprimer éventuellement cette jeune menace qui est réelle maintenant, de supprimer les écoles libres, les écoles catholiques, qui défendraient des idées qui, contre les idées traditionnelles du catholicisme. Jusqu'à là, supprimer les écoles.
En France, parce que vous savez, ça cause le catholicisme, c'est la
religion, la démocratie.
Comment?
Non, non, c'est parce que ça cause, parce que le catholicisme, c'est la religion. Ah, et oui. Par exemple, nous savons maintenant, donc nous comme catholiques, nous sommes co-responsables du terrorisme. Parce que l'islam n'a rien en commun avec le terrorisme.
D'accord.
Mais la religion a beaucoup aux sources. Ce n'est pas...
qui avait soutenu quand même le mariage, la requête. De... Peut-être c'est parce que la société civile s'est mobilisée, alors ils ont eu l'appui de ces partis, ce qui n'est pas malheureusement le cas dans chaque pays de l'Europe.
Seulement, j'adore la société, le peuple croate, parce qu'il était abandonné par toute la classe politique. Approximativement, parce que certainement il y avait des personnes. Mais s'il s'agit de direction des grands partis politiques, aucune parti politique n'a pas voulu s'engager à côté d'un mouvement populaire d'un référendum qui a défendu la famille et la nature humaine. Et le Croate a gagné son référendum sans aucun soutien du côté de la classe politique. Donc, premièrement, c'est possible, mais malheureusement, c'est l'illustration de notre situation culturelle quand nous sommes pratiquement abandonnés par la classe politique. Donc, c'est aussi la réponse à votre question, parce que c'était très important. Donc, nous sommes dans la double minorité souvent, parce que nous devons résister face à la culture dominante, face à l'idéologie antichrétienne qui fait de du catholicisme co-responsable du terrorisme, parce qu'aux sources terrorisme, c'est fondamentalisme religieux, excusez-moi l'ironie, présent dans toutes les religions. Nous connaissons cette thèse. Mais, deuxièmement, nous devons souvent résister face à la tendance conformiste, même dans nos familles politiques.
Vous dites que vous adorez les Croates, alors vous devez adorer les Belges, qui, moi, je trouve, on est fort abandonnés par la classe politique qui ne nous représente pas. En pratique, quand on entend, par exemple, la position des hommes politiques sur les migrations, ils sont tous pour.
Oui.
Moi, c'est marrant. Aussi bien des collègues que dans nos milieux ici ou dans d'autres, je n'entends quasiment que des échos négatifs. Et les politiciens, eux, sont tous pour. Il y a une dichotomie terrible.
Mais vous savez, d'abord, j'adore Belgique parce que c'est le pays né de la fidélité catholique. C'est le pays qui est né de la fidélité à l'Église catholique. Donc, c'est dans un certain sens, comme chez nous, que cette fidélité, même plus en Belgique, a créé ce pays. C'est une très belle chose. Et c'est une très belle chose. Mais deuxièmement, je suis dans le groupe politique au Parlement européen avec des NVA flamands. Donc, nous avons beaucoup de divergences. Je vais dire ouvertement que dans le domaine de civilisation, dans le domaine... Je n'aime pas le mot métapolitique parce que ça suggère que les questions principales sont coupées de la réalité. Mais dans les questions principales, ils sont souvent très libéraux. Mais j'ai écouté pendant notre conférence à Rome, il y a un mois, vice-premier ministre Yambon, de l'immigration, il a parlé très bien avec beaucoup de réalisme. Donc, je ne connais pas, parce que pour connaître la vie politique d'un pays, il faut être à l'intérieur. Parce que nous avons le proverbe en Pologne, le voyage enseigne. C'est complètement différente chose, lire même des livres, lire des journaux, écouter la télé, à parler avec des gens, observer de l'intérieur le processus politique. Mais objectivement, je peux dire, selon mes observations, que ce que j'ai entendu, ce que j'ai suivi dans le discours de Yan Yambon, c'était un des plus courageux déclarations politiques que j'ai entendu parler dans les années dernières. Et je dis objectivement, avec, et je l'ai dit, comme en pleine conscience des différences politiques dans la question de la famille, de la vie, avec sa partie politique. Mais s'il s'agit de cette question, c'était, à mon avis, très courageux et très réaliste.
Question, d'autres questions?
Oui.
Oui, j'ai une question qui concerne. Vous avez parlé de l'athéisme d'État,
oui.
Et je voudrais parler de la situation au niveau européen. J'ai un peu parlé. Moi, je viens d'un pays, la France, qui s'est malheureusement illustrée par son opposition violente à l'inscription des racines chrétiennes dans les traités européens. Et. Ce qui fait dire d'ailleurs à de nombreux catholiques aujourd'hui que le salut des chrétiens, il faudrait mieux démanteler l'Union européenne et la recréer éventuellement sur de nouveaux fondements plutôt que de conserver les institutions actuelles. Personnellement, je ne pense pas que ce soit, enfin, c'est pas mon opinion. La question est la suivante, pensez-vous qu'il soit souhaitable d'inscrire les racines chrétiennes de l'Union européenne? Dans le traité, première chose. Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il est possible de restaurer les valeurs chrétiennes dans le cadre institutionnel actuel?
Deuxième question est beaucoup plus difficile que la première, parce que parce que première c'est de la domaine d'histoire. Je peux vous rappeler que cette histoire de la racine chrétienne, c'est l'histoire des dialogues rejetés, de dialogues avec l'Église, de dialogues avec Rome, rejetés par l'Union européenne. Parce que, dans certains sens, ça commençait dans l'année 2000, quand Jean-Paul II a envoyé une lettre à la célébration, commémoration des 1200 centenaires de l'accouronnement de Charlemagne. Et le pape a écrit là qu'il y avait une époque quand le peuple européen collectivement servait Dieu, qu'il était fier de sa foi, etc. Et maintenant, nous vivons à l'époque où toute mention sur Dieu est rejetée des documents communs de l'Europe moderne, de l'Europe actuelle, etc. Et c'était la suggestion qu'on peut dire de Dieu. Après 2000, par quelques ans, il y avait la discussion si nous pouvons inscrire dans la... parce qu'il s'agissait à l'époque de la Constitution européenne de Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait la discussion sur les valeurs chrétiennes. Mais après l'opposition contre les valeurs chrétiennes, qui est aussi... ce n'est pas très bien défini. Qu'est-ce que ce sont des valeurs, etc. Mais à cause de l'opposition à cette notion de valeurs chrétiennes, on a proposé des racines. Donc la constatation... que l'Europe, elle n'est pas chrétienne. C'est le fait. Ce n'est pas le choix. C'est le fait. On ne peut pas changer l'histoire. Et c'était aussi rejeté. Malheureusement, c'était rejeté. Je pense bien sûr que... Mais je pense que ce n'est pas la formule optimale à l'époque. Parce que moi, personnellement, je préférerais la formule que l'Union européenne ou l'Europe respecte la vie chrétienne de leur peuple ou traite cette vie chrétienne comme la valeur. Prenez exemple, par exemple, d'Israël qui a, avec la République tchèque, ce sont les sociétés, en tant que société, les plus athéistes, avec le plus grand nombre de personnes qui se déclarent comme non religieuses. Mais à la fois, cet État respecte la vie religieuse comme composant principal de la bien commun. De la bien commun. Donc, moi, je préfère la déclaration. Moi, je préférerais la déclaration de respect à la vie chrétienne que la déclaration que la personne qui rejette le christianisme déclare les valeurs chrétiennes. Parce que, par exemple, parce que nous savons souvent quand on argumente, par exemple, en Irlande, j'ai invité à notre diète, à notre parlement, la personne qui était engagée à côté de la famille dans le référendum irlandais. Ils ont dit que la victoire de la part homosexuelle dans le référendum était précédée par la victoire des argumentations homosexuelles dans le milieu catholique. Que les valeurs chrétiennes nous obligent à compassion, etc., etc. Donc, moi, je préférerais la déclaration de respect à la vie chrétienne des personnes qui ne participent pas dans cette vie, que par exemple, que cette vie, que c'est un facteur important de la vie européenne, etc. Mais il faut prendre ce que est possible. Donc, j'ai soutenu, j'ai soutenu les valeurs chrétiennes, les racines chrétiennes, etc. Et c'était tous rejeté. C'était tous brutalement rejeté. Toutes ces propositions étaient rejetées. Et si c'est possible, réformer l'Union européenne. C'est très difficile parce que nous sommes limités par des traités. C'était Pie XII qui était, dans un certain sens, apologiste des traités de Rome. Il était erré à cause du traité de Rome, parce qu'il faut se souvenir que le traité de Rome, c'est 11 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il était très content, mais il a dit à l'époque que c'est dommage que la construction tellement espérante, comme la communauté européenne, cette communauté de 6 États, abandonne toute référence à la religion, toute référence à Dieu, toute référence aux valeurs morales, etc. Et bien sûr, c'est dommage, mais Alcide de Gasperi, une parmi ces grands pères chrétiens-démocrates, pères de l'Europe, etc., il a défini chrétien-démocratie comme le mouvement du centre qui va à la gauche. C'est le mouvement du centre qui va à la gauche. C'est très bonne définition de chrétien-démocratie. C'était un nom très pillé, donc c'était en certain sens très prophétique.
C'est pire.
C'était à la fois très prophétique.
Donc la réponse est plutôt non. Plutôt difficile à réformer. Quoi.
Ah oui. Je pense que c'est très difficile, mais je pense peut-être le Brexit donne la chance parce que la crise de l'Europe peut-être ouvrir la conjoncture à la réorganisation de l'Europe. Et nous devrions être prêts. Parce que moi, je pense, et ce n'est pas la déclaration, ce n'est pas par la... ce n'est pas politique. Ce n'est pas par la political correctness. Mais moi, je suis persuadé que notre vocation, c'est coopération. Mais la base de cette coopération aujourd'hui est fatale. Mais certainement, l'Europe, c'est la communauté de destin. Certainement, le peuple de l'Occident chrétien c'est la communauté de destin. Donc, nous devions coopérer. Mais la base de cette coopération est fatale.
Encore petite question pour ta route, pour terminer, oui.
Une simple remarque. La seule chose qui nous reste de chrétiens, c'est le drapeau européen, ce sont les 12 étoiles de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Et il a été à un certain moment contesté quand on s'est arrêté aux 12 étoiles, parce que ça représentait trop.
Oui, je sais. Nous pouvons faire le test d'intention et proposer mettre la croix au sein de cette... et nous pouvons examiner des réactions.
Encore une question? Oui.
Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, notamment par vous au niveau de l'Union européenne, pour garantir et peut-être même verrouiller le droit des parents à choisir l'éducation de leurs enfants, la liberté scolaire et...